les eaux fleurissent. Ris, entre la vie est un délice. Ris, bambelle d'enfant, regard complice.
Les éclats de lyre. Une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 17 et 18 mai au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio.
Les éclats de lire.
Pour mieux connaître la littérature jeunesse et ses acteurs.
Quel enfant étiez-vous ?
Une enfant, la plupart du temps perchée sur une fenêtre, à observer ce qui vit autour, ou sinon plongée dans un livre.
Quel livre pourriez-vous relire 100 fois ?
Il y en a trop.
Quel livre vous a bouleversé ?
Vers 9 ans, cela a été « Le pays où l'on n'arrive jamais » d'André Dautel.
Quel livre auriez-vous voulu écrire vous-même ?
L'art de la joie de Goliarda Sapienza en littérature adulte. L'apprentissage amoureux de Laetitia Bourget et Emmanuel Houdard en littérature jeunesse.
Parmi les autres êtres vivants, qu'auriez-vous aimé être ?
Un chat noir.
Je suis...
Annie Agopian.
Merci de me recevoir chez toi, Annie Agopian, pour cette interview.
Je suis ravie de te recevoir, Julie.
C'est donc ici que tu écris ?
Oui, je peux écrire que chez moi, en fait.
Uniquement chez toi ?
Oui. Eh oui, je ne suis pas du genre à aller dans des cafés écrire ou même partir en résidence ailleurs écrire, même en vacances, je n'écris pas.
Et est-ce que tu vas te ménager des temps d'écriture de manière assez régulière ou alors tu attends que l'inspiration, la grâce te tombe dessus pour pouvoir y aller ?
Ce serait plutôt la grâce d'avoir envie d'un seul coup de travailler, voilà, parce que ce n'est pas quelque chose chez moi de très naturel de me mettre à travailler.
Alors justement, peut-être que tu dois t'aménager des moments d'écriture, faire des petits rituels.
Alors les rituels, un thé, un chat pas très loin, et puis du piano. Enfin, je joue pas de piano,
mais tu l'écoutes,
j'écoute du piano quand je travaille, ouais. Et Bach, souvent.
Donc une écriveuse très casanière.
Absolument, avec vue sur le jardin quand même. Hein.
Alors voilà. Justement, ce jardin, on va en parler, tu t'en doutes. Je voulais te poser la question de l'inspiration. Est-ce que tu vas la chercher plutôt très près de toi, par exemple avec ton jardin, ou alors très loin, par exemple quand tu vois les informations à la télé ?
Bah les deux, en fait. Voilà. Si tu fais référence au livre que j'ai écrit, qui est illustré par Carole Schex, au port à Jauny, qui s'appelle « Juste le ciel et nous ».
Absolument, il est dans le vin.
Ben voilà, il fait effectivement référence à mon jardin, mais un jardin qui ouvre sur un ciel qui appartient à tout le monde et d'où le monde n'est pas du tout exempt ou oublié parce que en fait le ciel c'est quelque chose qui suit l'actualité aussi, hein, les missiles qui passent dans le ciel, pas au-dessus de mon jardin mais un petit peu plus loin, les étoiles filantes, beaucoup de choses quoi qu'on partage en fait, même si le ciel de mon jardin paraît, rectangulairement défini, comme s'il n'appartenait que à mon jardin et qu'il n'était qu'au-dessus de lui, en fait.
Pourtant, quand tu regardes un nuage à plusieurs kilomètres plus loin, quelqu'un peut regarder le même nuage
tout
en même
fait.
Temps.
Tout à fait, de toute façon, les pensées humaines, elles se rejoignent. Hein.
Également. Donc Ce livre, c'est nous replacer, nous, tout petits humains, dans l'immense univers.
Oui, mais c'est à la fois faire de nous, de notre corps, de notre cerveau, un univers. Parce qu'en fin de compte, on vient des étoiles. Hein. On est formé exactement, constitué exactement des mêmes atomes qui nous viennent des étoiles.
Alors, tu me l'apprends.
Tu ne savais pas ça ? C'est quelque chose d'assez... D'assez étonnant, oui. On est constitué de la même matière, en fait.
Étonnant et poétique.
Oui, scientifique aussi.
Oui. La science est parfois poésie.
Souvent, alors, à l'heure actuelle.
On parle de poésie. Ce texte, c'est un long poème. Enfin, un poème.
Il est long. Il n'est pas spécialement long.
Pas tant que ça.
En durée de lecture, disons. Mais il est long parce qu'en fin de compte, il est comme un cheminement et comme une boucle aussi. Donc, ça pourrait être une boucle sans fin.
Et justement, ce texte, j'ai vu cette vidéo sur YouTube du salon Les Passagers du Livre. où il y a une très belle lecture mise en musique au piano, justement, de ce texte. Et il est remanié. Il y a des extraits qui sont intervertis, etc.
Oui.
C'est toi qui as fait ce travail de remaniement ?
Du tout. C'est la personne, la journaliste, qui est aussi comédienne, qui est aussi chanteuse, puisqu'elle chante dans cet extrait-là, et qui a décidé de faire comme ça. J'en ai été surprise et agréablement surprise, parce qu'en fin de compte, ça fonctionne bien. Bah, c'est un texte qui est écrit en boucle, donc on peut faire les boucles qu'on veut dedans.
Elle a pris des bouts de ton poème et les a remaniés. Elle n'a pas changé les mots, mais juste l'ordre de certaines séquences.
C'est ça. Comme un peu ce qu'on appelle une psalmodie.
C'est assez rare quand même pour un écrivain de voir son texte se faire bouger comme ça, non ?
Oui, mais je ne suis pas quelqu'un qui est très... Je ne suis pas très... Comment dire ?
Ça t'a pas vexé ?
Du tout. Mmh. Non, parce que c'était bien fait. Mmh. Ça m'a surprise au début quand elle m'a dit voilà, je vais chanter. Je me suis dit oulala. Parce que bon, c'est pas toujours réussi, la poésie chantée, on va dire. Et en fin de compte, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très naturel dans sa façon de s'emparer du texte et puis surtout de très authentique. Donc voilà, ça m'a beaucoup. Ça m'a touchée en fait. Non, je suis pas du tout. Je suis assez partageuse.
De toute façon, beaucoup d'autoristes que j'ai interviewés m'ont dit ça aussi. Une fois que le texte est publié, il ne leur appartient plus. Il appartient aux lecteurs, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent avec.
Oui, alors ça c'est quelque chose qui, quand on écrit, on le sait, il y a un moment donné, on s'arrête d'écrire ou de travailler sur un projet parce qu'on est arrivé au bout de ce qu'on peut. Disons que ça sonne juste et qu'on arrête à ce moment-là. Et puis en fait, ça va être prolongé par le lecteur, il va s'en emparer, il va en faire. Voilà. Ce que je redoute un peu des fois, c'est les adaptations théâtrales de certains textes. Je peux les redouter parce que des fois, c'est pas le cas dans celui-ci parce que c'est de la poésie et que c'est plus d'une certaine manière plus flexible, mais quand c'est un album qui raconte quelque chose, je crains beaucoup les contresens.
Tu disais qu'au bout d'un moment l'auteur n'a plus rien à apporter à son texte. Ce moment peut être plus ou moins long, justement, te concernant, est-ce qu'il prend beaucoup de temps ?
Alors en fait, moi j'écris des textes extrêmement courts qui me prennent énormément de temps. Alors bon, voilà, ça fait rire beaucoup de mes amis auteurs. Mais c'est vrai que, en fait, c'est un peu comme quand on taille un rosier, quoi. Moi, j'écris beaucoup, je recherche beaucoup, et le résultat de tout ça est toujours succinct, peu de mots et le maximum d'expression ou de sens dessous, en fait. Donc c'est un peu comme un rosier qu'on taille. Si on ne taille pas un rosier, il va faire des tas de petites roses qui ne sentiront pas forcément très bons, qui ne sont pas forcément très développés. Les mots, c'est pareil. En fait, il faut savoir les tailler. J'adore ça. D'ailleurs, dans le jardin, c'est ce que je fais. Je joue du sécateur.
Ça fait un moment que tu t'intéresses à la poésie jeunesse et que tu en écris.
Ça fait pas tellement longtemps que j'écris des choses qui peuvent ressembler à des poèmes, en fait. J'ai toujours eu une écriture assez, disons, poétique, même avec les albums, même en racontant des histoires. D'ailleurs, je raconte jamais trop des histoires dans mes albums. Les thèmes, ils sont toujours. Rarement des héros.
Des personnages à qui il arrive des aventures, c'est plutôt des sujets qui sont évoqués avec une foule de personnages parfois.
C'est ça. Et du coup, disons que là, ça vient de la rencontre aussi avec un éditeur, cette envie d'être plutôt dans la poésie, plus juste. Voilà. Avec le Pora Joni, parce que la démarche de cet éditeur m'intéresse. Après, ça a commencé avec un recueil de poèmes qui s'appelle Les Bottes à Splatch. Ça a été le début, quoi. Mais ça racontait encore quelque chose, Les Bottes à Splatch. Ouais.
Oui, il est peut-être plus abordable que Juste le ciel et nous.
Oui, Juste le ciel et nous, disons que c'est plus moi, quand je fais des rencontres en classe, c'est plutôt avec des collégiens, on va dire.
Justement, ouais. Est-ce que les enfants y comprennent la poésie? Qu'est-ce qu'ils y comprennent? Et puis de toute façon, est-ce qu'il faut comprendre quoi que ce soit?
Je ne pense pas que ce soit une nécessité de comprendre la poésie, mais comprendre l'émotion qu'on ressent en entendant certains mots ou une succession de mots parfois surprenante ou une succession de silences aussi, dans lequel la pensée peut se perdre, la rêverie peut se faire, quoi, dans un texte qui ne dit pas tout. C'est vrai que je ne crois pas que ça soit une nécessité de comprendre. Bon, il ne faut pas non plus être dans l'hermétisme le plus complet, mais je pense que c'est la grande force de l'écriture et du langage, que surtout aussi de la poésie, c'est que c'est quelque chose que on comprend pas tout à fait, mais qu'on peut comprendre à d'autres moments, où on peut croire avoir compris et n'avoir pas compris. Ça, c'est intéressant, justement. Parce que ça, en fin de compte, ça offre une très grande liberté.
Est-ce que, selon toi, c'est important de lire à voix haute la poésie ?
Ah oui, c'est même c'est plus qu'important, c'est un vrai plaisir de mâchonner des mots. Moi, j'adore ça, en fait. Après, bon, il y a une façon de ne pas trop interpréter non plus la poésie. De façon, là encore, ne pas imposer à l'auditeur une seule interprétation. Par exemple, juste Le ciel et nous, quand je le lis, c'est un texte où c'est une espèce, c'est comme un ressassement, quelque chose qui est peut-être de l'ordre de la mer qui va, qui vient. C'est très, je le lis de façon comme ça, mais il m'est arrivé de l'entendre. D'ailleurs, on faisait tout à l'heure référence à ça, lu d'une autre manière, des fois de façon, disons, plus enjouée, plus légère. Et qu'en fait, ça me donne, moi, un autre éclairage sur ce que j'ai écrit. Et ça, c'est plutôt intéressant.
On n'a pas encore parlé des illustrations de ce livre. Ah. Il est très joliment illustré par Carol Schex. Mmh. Est-ce que c'était un désir de ta part ?
Carol Schex ? Oui, tout à fait, de travailler avec elle sur ce thème-là. Alors, au départ, quand j'ai écrit le texte... En fait, je ne pensais pas du tout à Carol Schex parce que c'était très éloigné de ce qu'elle pouvait faire. Bon, j'avais déjà travaillé avec elle sur des albums, mais c'était très éloigné de son travail, en fait. Alors, capacité, elle en a des énormes, hein, ce n'est pas le problème. Disons de ce qu'elle avait, du potentiel que je lui croyais, enfin, que je lui donnais. Et en fait... Elle était d'ailleurs là, je venais de terminer ce texte et j'ai eu envie de le lire à voix haute parce que souvent je le lis comme ça pour avoir un écho, pour avoir des retours. Et en fait, elle m'a dit « mais moi je veux l'illustrer ». Et je lui ai dit « mais tu sais, c'est un texte qui a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de silence, c'est une grosse abstraction d'une certaine manière ». Ça ne correspond pas tellement à ce que tu aimes faire, toi qui aimes faire des personnages, d'être dans la vie, dans les échanges entre les personnes et tout ça. Là, c'est quand même un texte qui est un peu comme une méditation, il me semblait. Bon. Et puis je me suis dit, pour tout, si elle veut s'en emparer, ça peut être intéressant.
Oui.
Ouais. Et en fait, je pense que c'est un texte qui l'a mené un petit peu plus loin. Maintenant dans son travail.
Uyoshe binasi Shuke bei moi Uyo révolutionnaire chez I'll search a pay him freedom, fire. Oh, freedom, freedom, fire. Oh, freedom. Coupe your bois bien racine. Bobine pay him away. Où on vend capes. Pote pays moi, freedom fire, freedom, freedom fire, oh freedom. oiseau qui peut voler. Libérez le pays, moi. Pour yon moun founet aller, déjouer le pays, moi. Freedom fire. Oh, freedom. Freedom fire.
Tu as participé à ce recueil collectif, Les 9 vies extraordinaires de la princesse Gaïa, avec tous les autoristes qu'on invite aux éclats de lire cette année.
C'est ça, oui.
Et tu as écrit l'une des 9 vies de cette princesse Gaïa.
Oui.
Alors, à chaque fois, elle change de nom, hein, pour qu'on s'y retrouve un peu, j'imagine. Elle ne change pas totalement de nom, parfois c'est juste une lettre qui change, ou la prononciation. Chez toi, c'est Gaïa. C'est toi qui as choisi ce nom?
Alors, au départ, c'est un... Non. Au départ, non. C'est plutôt Régis qui disait, bon, ben voilà...
Donc, parce Régis Lejean qui a initié ce projet et qui a illustré chacune des vies. On en a déjà parlé.
C'est mais... ça. Et surtout, qui a donné à chaque auteur une espèce de cadre. Voilà. Disons, moi, j'ai hérité du chapitre 6 qui se passe en Haïti, enfin à Saint-Domingue, puisqu'au XVIIIe siècle, c'est une colonie française qui s'appelle Saint-Domingue. Mmh. Et donc, bon, là, elle s'appelait Gaïa, mais elle s'appelait Gaïa ou Goyave. Goyave, je me disais non, quand même, non, ça, là, j'ai pas trop envie, Goyave, c'est, voilà. Gaïa, ça m'ennuyait à cause du peintre, donc en fait, j'ai changé l'orthographe, c'est, voilà, bon. C'est comme ça. Et puis, je me suis emparée de ce lieu. Alors, si, je sais pas, pour parler de Gaïa, donc de ce... Il s'est fait... Enfin, Régis a pris un très, très malin plaisir à proposer à ses auteurs disons, un cadre qui pouvait les, ben justement les amener plus loin. Il s'est amusé un petit peu comme moi avec Carol Schultz, en fait. Il a mené un peu plus loin. Dans mon cas, il savait que je ne suis pas du tout dans la narration, dans de raconter une histoire avec une héroïne ou un héros. Ça, c'était vraiment ça. Et que écrire long, bon, le chapitre, il n'est pas si long que ça, hein, quand même. Écrire long, pour moi, c'est antinaturel, quoi, chez moi. Et je crois qu'il a pris un malin plaisir à faire ça. Et en fait, moi, j'ai pris un malin plaisir à me dire, bah tiens, ouais, peut-être parce que c'est un ami et qu'il est un peu taquin et qu'on a un peu un rapport comme ça. Et je me suis dit, ah, bah tu vas voir. Voilà. Donc, c'est effectivement, ça s'est passé un peu comme ça. C'est Gaïa, c'est le chapitre 6.
Il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Tu as parlé de l'esclavage, du vaudou. De la révolte des esclaves aussi.
Oui.
Très brièvement évoqué à la fin.
Oui, ben oui, tout à fait.
Et du destin d'une fillette, le destin va devenir assez exceptionnel. Elle va rencontrer 3 divinités sur sa route qui... On a l'impression que c'est terrible et qu'elles vont lui prendre quelque chose de très précieux, mais finalement, tout va pour le mieux pour elle.
Oui, on peut voir ça comme ça. Elle change. Son destin va complètement changer en rencontrant... ces esprits hein, vaudous qui sont de vraies entités vaudous en fait hein, elles, enfin dans le vaudou, ils existent, Erzuli, mm-hmm. etc. Et ça va changer son destin, ça va l'amener à quasi changer d'identité. Et curieusement, ces trois esprits qui sont vont lui demander un renoncement qui en fait va à l'encontre de ce que ces esprits sont censés représenter, c'est-à-dire la féminité, mmh. par exemple. Goya va devoir renoncer à son statut de, sa nature de femme, au fait d'avoir des enfants, mmh. D'avoir une famille, etc. Et c'est encore une fois une façon d'aller un petit peu plus loin que ce à quoi on est assigné, en fait, l'histoire dans ce chapitre-là. Elle est assignée au début à être... elle n'a pas de place au début, puisqu'elle est, elle est la fille d'un colon et d'une esclave. Donc
déjà, esclave.
Elle est métisse, donc elle n'est pas considérée par aucune des deux communautés mmh. comme une personne. Voilà.
Et encore, elle a un petit peu de chance au début, parce que son papa, qui est le maître de la plantation, a de l'affection pour elle.
Oui, une affection... un peu inquiétante.
C'est son petit objet, quoi.
C'est son petit objet, et vu les relations qu'il a pu avoir avec la mère de Gaïa, il y a quand même... il a un halo un tout petit peu inquiétant, mmh. ce monsieur. On va dire, voilà. C'est trouble, hein. C'est une histoire... Enfin, c'est un chapitre qui est, par rapport à d'autres, un peu noir, hein. Mmh. Un peu inquiétant. Un peu... voilà, qui... en sous... texte, disons, ou entre les lignes, remue des thèmes qui ne sont pas forcément confortables et qui sont assez... Alors, c'est aussi, ce qui est aussi particulier à ce chapitre, c'est que, en fait, ce qui est raconté, la révolution haïtienne, le colonialisme, mmh. tout ça, continue à l'heure actuelle à hanter ce petit pays d'Haïti. Continue à avoir et à hanter la littérature haïtienne aussi. Là, je suis une grande lectrice.
Oui, voilà, parce qu'il y a énormément de choses dans cette histoire. Tu as fait beaucoup de recherches, ou alors c'est vraiment un sujet qui te passionne depuis un petit moment?
Ben, disons que j'aime beaucoup lire des auteurs haïtiens.
Voilà.
C'est quelque chose qui me fascine.
Tu étais dans ton domaine?
J'étais dans mon domaine, mais aussi, moi, je suis assez... étant née en Afrique... Non, pas en Haïti, mais c'est quand même...
Il y a une culture que tu reconnais.
Oui, et puis je suis née au temps des colonies, moi, en fait, dans le Cameroun, avant l'indépendance. Donc, ça fait un bail, je ne te le fais pas dire.
C'est bizarre d'entendre ça.
Mais oui, justement, c'est pour ça qu'il y a quand même des échos avec ce que je suis, moi, ce que la vie m'a fait, là où elle m'a fait naître et ce qu'elle m'a fait vivre. Je n'ai pas été esclave, évidemment, mais je suis née à une époque peu reluisante de la France, en fait. Et Haïti, c'est quand même la première colonie française à s'être révoltée et avoir acquis une indépendance. Elle l'a payé cher, puisque en échange de son indépendance, Haïti a dû payer encore à l'heure actuelle une dette en argent. Une dette par rapport à la France et par rapport aux colons, qui ont dû renoncer à leur terre et à leur richesse au moment de l'indépendance d'Haïti. Donc c'est un drôle de chapitre qui est une fiction, mais qui, bon, comme beaucoup de fictions, en fin de compte, s'inscrit historiquement et dans l'actualité aussi, avec ce changement d'identité aussi de Goya. Ça change...
Oui, changement de genre même.
Oui.
Tu viens de me raconter beaucoup de choses là sur Haïti. Toutes ces choses-là ne sont pas forcément extrêmement développées dans cette nouvelle. T'as pas envie de faire un roman là?
Non, je tiens pas du tout le roman. En fait, je tiens pas la longueur. Je m'ennuie assez vite à devoir tout raconter dans un roman. Non, mais c'est vrai, j'ai essayé. Hein. Je peux en parler parce que j'en ai écrit qui n'ont jamais été édités. L'éditeur m'a dit non. Enfin, on t'attendait pas à cet endroit. Ça va pas du tout. Bon, bref, voilà. Et puis, je suis trop seule dans un roman. en fait. Au bout d'un moment, ça devient pénible. Et, enfin, je suis trop seule et en même temps, les personnages commencent à trop me hanter. Quand on commence à se dire, enfin, ça m'a un peu passé ça, parce que je n'ai plus fait de tentatives comme ça, mais à l'époque où j'en ai eu fait, eh ben, quand on est, je sais pas, dans une fête avec des amis, quand on se dit, voyons, ton personnage, il ferait quoi, il penserait quoi là, à ce moment-là, il y a un côté un peu schizophrénique ou un truc un peu inquiétant qui se passe. Quoi. On est, voilà. Ah, ben, je faisais référence à Bach tout à l'heure, hein, que j'écoutais, voilà. Il y a un côté, surtout dans les variations Goldberg, il y a une façon de tourner autour du même sujet et de revenir en faisant des variantes et des choses comme ça. Ça me fait vraiment ma façon d'écrire. C'est terrible. C'est terrible. C'est extrêmement... c'est à des moments une souffrance, on va dire. Parce que... je ne peux pas, j'ai arrêté d'écrire à la main parce qu'il fallait que la feuille soit toujours propre. C'est-à-dire que si j'écrivais trois lignes et que je faisais une rature, il fallait que je recommence à recopier toute la page parce que mon cerveau se bloquait sur la rature. Ah ouais, non, mais. Et donc, du coup, l'ordinateur a été une vraie sauvegarde pour moi. Donc, je note dans des carnets des idées. Des bouts de phrases, des trucs comme ça, mais le texte constitué, c'est toujours sur ordinateur, quoi. Et quand je fais retour en arrière, je vois le curseur qui se déplace à toute allure dans la page parce que je suis sans arrêt en train de revenir. Je suis assez obsessionnelle. Et voilà.
Oui, si tu reviens sans cesse sur le mot, sur la phrase, sur la tournure,
sur la logique. Voilà, exactement. Ouais. Il vaut mieux.
Donc, tu as vu ta manière de travailler changer avec les nouvelles technologies ?
Disons que ben, j'ai commencé à vraiment à écrire pour l'édition, je ne sais pas, en 93 ou un truc comme ça.
Tu avais déjà un ordinateur.
Et il y avait déjà les ordinateurs.
Ouais. C'était des gros cubes, mais ils étaient là. Ouais, il y avait du traitement
c'est
de texte.
C'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Oui, parce qu'avant, je travaillais dans la com et je faisais du texte aussi, mais ce n'était pas pareil en fait. Ça me faisait pas autant. Peut-être j'étais moins sérieuse. Ben c'est sérieux d'écrire pour la jeunesse.
Les éclats de lire, une émission de radio. Le troisième mercredi du mois à 15h30, rediffusé le dimanche qui suit à 11h.
Les éclats de lire. Une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 17 et 18 mai au Vigan.